Le festival Seconde Nature d'Aix-en-Provence devait officiellement débuter le 2 juin, mais les espaces verts de la Fondation Vasarely étant occupés par un camp de gens du voyage, les événements prévus ce jour ont été annulés. C'est donc le lendemain qu'ont véritablement commencé les festivités. Après une rencontre publique sur le thème « Du cinétisme à l'art numérique à la Fondation Vasarely », les festivaliers se sont rendus dans les locaux de Seconde Nature pour le vernissage de l'exposition du collectif canadien Artificiel. Retour sur leur travail en compagnie d'Alexandre Burton, membre de ce collectif.
Mon nom est Alexandre Burton, du groupe de création numérique artificielle. Au début des années 2000, j'ai rassemblé un certain nombre de personnes pour travailler la création numérique, donc développer des démarches de création qui allaient mener à des objets soit d'installation ou de performance. Il y a plusieurs projets qui sont issus de ce studio de création. On a une dizaine de projets en tout avec différents artistes. Il y a 4 membres, disons, noyaux, et on s'entoure d'autres créateurs selon les besoins spécifiques à chaque projet. Comme par exemple, le projet des ampoules, c'est l'œuvre de 3 personnes. Et le projet Power, qui a malheureusement pas pu être montré hier, c'est 2 personnes. Donc, selon les projets, c'est assez modulaire. Mais avec toujours la même idée de rigueur au niveau de la démarche puis de la mise en place de l'œuvre. Alors l'œuvre de ce soir s'appelle Condemned Bulbs. C'est une œuvre constituée d'ampoules électriques de grosses dimensions et de grande puissance, donc c'est 1000 watts par ampoule incandescente. C'est des ampoules qui n'existent plus dans la mesure où on est passé au LED ou à d'autres technologies. Mais quand on a fait l'installation, c'était une ampoule commune. Donc, à l'origine du projet, c'était de prendre un objet relativement commun, issu du commerce. Et tranquillement, avec le temps, on se ramasse à gérer une installation qui est une espèce de pièce de musée parce que ces ampoules n'existent plus. Donc, on a changé le titre par accident. C'est que quand on a présenté Ars Electronica, il y avait une thématique et on avait mis « Condemned Balls » parce que cette année-là, l'Union européenne avait annoncé l'illégalité de la production de ce genre d'ampoules-là. Donc, c'est un peu une blague, mais Ars Electronica a un gros rayonnement. Et là, le nom s'est retrouvé à être collé. Parce qu'avant, ça s'appelait simplement Bulb, donc comme Light Bulb. Et puis là, c'est devenu Condemned Bulb. Donc, on a gardé ce nom-là. Alors, cette installation est une installation d'abord sonore, c'est-à-dire que l'objectif premier est de créer une texture sonore à base d'électricité. L'ampoule est un mécanisme de livraison d'électricité. Il y a un effet secondaire, c'est que la lumière naît en même temps que le son. Et c'est donc une expérience synesthésique, c'est-à-dire que la présence de son est indissociable de la présence de lumière. Mais ce qui motive, disons, l'articulation formelle et temporelle, c'est vraiment au niveau sonore comment ça se déploie. L'idée, c'est d'aller dans les ampoules, donc c'est immersif, et de là, entendre chacune des ampoules comme un individu, puis ensemble, c'est un cœur. À l'origine, nous, on travaillait en mode, ouais, comme tu dis, performance, c'est-à-dire que l'installation a été conçue comme un instrument de musique. Et les premières expérimentations qu'on a faites, on les faisait live, c'est-à-dire qu'on explorait, on cherchait, on tâtonnait. Il y avait beaucoup d'essais et erreurs, parce que forcément, même si on dit que la lumière est un effet secondaire du phénomène sonore, il reste que ce qu'on la voit. Donc, il faut trouver un équilibre entre la production sonore, la production lumineuse, la disposition spatiale. Et ce qui est arrivé après quelques années, parce que ça, c'est une œuvre qui date de 2003, on s'est rendu compte qu'on avait un peu fait le tour. Donc là, on est passé en mode où on a plutôt gardé la trace de tous ces gestes qu'on avait faits pour les fixer en installation. Et aujourd'hui, on est rendu à avoir, si on veut, un cycle de 6 moments, avec chacun une idée conceptuelle précise. Et au total, ça dure environ 30 minutes. Donc, c'est un cycle constant qui boucle à chaque 30 minutes et qui représente finalement le fruit du travail des 4 premières années. Ma préoccupation, c'est ce que j'appelle la lutherie numérique, c'est-à-dire l'idée de concevoir des dispositifs technologiques qui vont permettre une expressivité puis une sensibilité. Donc, ils vont ouvrir un potentiel. À partir de là, l'autre préoccupation que j'ai, c'est de travailler avec ce que j'appelle des phénomènes objectifs. C'est-à-dire, si on prend un logiciel de musique ou un logiciel de vidéo, on peut faire n'importe quoi en 3D, donc tout est possible. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je cherche des espèces de points de départ qui s'ancrent dans quelque chose de physique. Donc, pas nécessairement matériel, car l'électricité n'est pas matérielle, mais ça reste un phénomène physique, objectif.
Ouais.
Le vernissage de l'exposition d'artificiel était suivi d'une performance sonore du journaliste, compositeur, producteur radio Jean-Philippe Renoux. Il nous en parle ici.
Un travail extrêmement précis qui s'inscrit dans le cadre d'une série que j'ai inaugurée il y a 4 ans maintenant et que j'appelle Untitled, c'est-à-dire sans nom. Et pourquoi sans nom? Parce qu'il s'agit d'un travail sur les fréquences pures. Donc je voudrais dire que la fréquence, le son, parle de soi. En l'occurrence, à partir d'outils de mesure qui sont en fait les tout premiers oscillateurs, avant bien même qu'on les intègre dans des synthétiseurs et qui créent des oscillations de synthèse basiques, ce qu'on appelle les sanwaves, les sinusoïdales. Mais ces toutes premières ondes sinusoïdales servaient à faire des mesures acoustiques. Et c'était notamment utilisé pendant la guerre par les sous-marins. C'est amusant de savoir que cet objet qui est devenu musical au départ était un outil alors non seulement de mesure, mais extrêmement précis, puis un outil qui servait à faire la guerre. Et j'ai pu, grâce à des outils très vieux, qu'on dirait vintage aujourd'hui, qui sont conservés au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, retravailler à partir de ces outils d'origine, et enregistrer ces fréquences. Alors c'est des fréquences que j'ai dûment calculées, qui sont extrêmement précises. On sait que 130 Hz, c'est pas la même chose qu'un 131, même si finalement à l'oreille, la différence n'est pas forcément très très audible. Il s'agissait pour moi d'organiser comme ça un jeu de fréquences, dans un jeu comme ça psychoacoustique, où effectivement quand une fréquence va en croiser une autre, elle va générer une espèce de fausse fréquence. Une fréquence fantôme qui va se glisser un petit peu comme ça. Et cette fréquence fantôme a le mérite d'être perçue différemment selon l'auditeur et surtout selon le placement de l'auditeur dans l'espace de diffusion de l'œuvre. Il suffit même de tourner la tête très très légèrement ou juste de faire un pavillon sur son oreille avec la main dessus pour capter le son dans ce cas-là différemment. Alors, cette série qui est le prolongement, donc je disais, de quelque chose entamé il y a 4 ans, cette série d'Untitled répondait directement, et se voulait, mais avec beaucoup de guillemets sur le voulait, une reprise de Lamont Young. Et Lamont Young est un compositeur américain extrêmement important, le premier à développer comme ça, c'est ce travail de drone, c'est-à-dire de son continu, en s'inspirant très très fortement d'ailleurs des drones qu'on trouve traditionnellement dans la musique indienne par exemple, et qui servent ensuite après aux solistes à apporter soit une vocalise, soit une instrumentation. Mais il y a toujours comme ça ce son continu, c'est-à-dire une fondamentale qui va permettre ensuite après d'exprimer une note, une autre note, et puis d'engranger comme ça une polyphonie. J'ai donc joué exactement de ce principe-là. Et comme hélas, je ne pouvais pas retrouver les fréquences précises de la Lamont Young, qui sont comme ça très très secrètes, et que je voulais quand même partir d'un élément de la Lamont Young, j'ai inclus dans la performance, et on l'entend spécialement au début, les craquements d'un disque vinyle pirate de la Lamont Young que j'ai. C'est-à-dire une espèce d'hommage ultra minimaliste au père des minimalistes. Voilà un petit peu pour situer la performance de ce soir. En fait, mon instrument premier, ça reste le microphone. C'est l'objet dans lequel je parle en ce moment. Et je suis, moi, très intéressé par les field recordings. Ce néologisme est dans l'air, mais il est très poétique. Hein. C'est un enregistrement de paysages, de chants, comme ça. Et ça s'inscrit à la fois dans une histoire qui est passionnante, et puis en même temps dans une actualité qu'on observe assez souvent. Les outils d'enregistrement, les petits enregistreurs portables, maintenant, se font finalement accessibles à moindre coût et permettent de faire probablement des choses, justement à moindre coût, qu'on faisait plutôt difficilement il y a 10 ans. Je suis et je reste un homme de radio. Ces techniques-là sont celles que j'ai apprises dans le montage radiophonique, dans la réalisation, et puis que finalement j'ai ensuite décalé dans d'autres champs para-radiophoniques. Mais la technique de radio, celle du copier-coller, et ça c'est quelque chose qu'on trouve initié dans la musique concrète du début, ça commence en 48, on connaît l'histoire de Pierre Schaeffer et Pierre-Henri qui lui suit, etc., etc. Sont finalement les fondements de ce qu'on va trouver après dans la musique électronique avec un grand E et toutes les variations qu'elle comporte. Avec le travail de Phil Cordin, je retrouve exactement ce genre de métier qui consiste finalement à assembler, à réaliser. C'est pas tant l'image sonore en soi qui m'intéresse que la superposition d'images sonores et la création comme ça d'un environnement. À cet effet, alors, il y a dans le cadre de la programmation de Seconde Nature cette année, deux ateliers de création sonore radiophonique que je vais animer. et qui vont nous ramener sur ces champs-là, bien plus que dans le jeu de fréquence que je montrais tout à l'heure. Il y a un atelier assez court qui s'appelle Lumière Sonore, donc à l'aide de capteurs, mais plutôt low-tech en fait. J'avais élaboré un système de captation de la lumière et de l'énergie électrique qui se transformait en ondes sonores. Avec l'installation qui accueille actuellement Seconde Nature dans leur local, celle des Canadiens d'artificiel, Condom Bubbles, je retrouvais ce même genre de décorum très très inspirant. Et justement, à partir de quelque chose qu'on voit mais qu'on n'entend pas, on va s'amuser avec les participants de cet atelier, sur des ateliers de 2 heures qui auront lieu quotidiennement, à jouer comme ça à ces captations de l'invisible, mais en tout cas de l'inaudible, et on va rendre ce visible audible. Et à partir de logiciels maison, bricoler un petit peu sur ça. C'est-à-dire jouer des étirements, du pitch, de reverse, du trafic comme ça, de transformation électroacoustique de base, mais qui permettent de jouer véritablement avec la matière sonore. L'atelier 10 Masterclass va me permettre de travailler avec un groupe sur plusieurs heures, sur 12 heures, dans ce que on appelait une carte postale sonore. C'est comme quand on est au bord de la mer et qu'on écrit à sa grand-mère en disant « Bonjour mamie, ici il fait beau », etc. Et finalement, on va faire un petit peu la même chose avec du son. Voilà. Par exemple, là, on a un camion, une benne à ordures qui passe à côté de nous et qui fait le bruit qu'on entend, évidemment. En plus, il stationne devant nous, on a beaucoup de chance. Bonjour monsieur, vous faites du bruit, pourquoi ?
On est de passage.
Je veux dire, c'est votre métier.
On est dans l'exercice de nos fonctions.
Voilà.
Voilà. Alors, on parlait de carte postale.
Ben oui, alors ce monsieur qui est dans l'exercice de ses fonctions, comme il nous le disait, et qui est de passage, forcément, si je fais une carte postale sonore, je dis, tiens, voilà un événement intéressant. Et cet événement, ben, bien sûr, on va le monter avec autre chose qui n'aura rien à voir avec l'action qu'on entend là. Et puis, ben, ce son de la benne à ordures qui vient de se vider dans une benne plus grande que celle du camion qui transporte finalement les déchets de la ville de Aix, peut après être interprété différemment. Et on va construire à partir de ces marques sonores de Aix en Provence un scénario radiophonique. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Conduisez pas trop vite. Alors le résultat, c'est impossible d'en présager aujourd'hui. Mais c'est aussi ce qu'en fait le charme, c'est-à-dire qu'on va construire quelque chose à partir d'une information qu'on ramasse comme ça, très, très spontanément. Je sais qu'il y a déjà du monde, mais je crois qu'il reste des places ouvertes.
L'exposition Condemned Bubbles est accessible à tous, gratuitement, à Seconde Nature jusqu'au 11 juillet. Pour plus de renseignements sur le programme du festival, rendez-vous sur www.secondenature.org. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Jean-Philippe Renoux, vous pouvez consulter son site internet www.jeanphilipperenoux.com.